L'école était approchée à un flanc de colline, surplombant une ville vieille de 3 millénaires. Lorsque la nuit tombait, étalant son voile noir sur la cité, sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux. Vous êtes à Marseille.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peines, où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes menaient les chrysanthèmes, mais que les grands baladaient les fers dans les vestes.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde, bienvenue à Marseille, dans le sud-est de la France. Marseille, bleu, blanc, aux couleurs de la ville et de la mer. Marseille, porte des sud, ouverte sur l'Afrique. Un port, une âme, une identité, une ville-monde, ville-refuge, de passage, de destin, sanguine et passionnée, sous le regard de la bonne mère dont on entendait les cloches à l'instant, comment la goûtez-vous Marseille? Bonjour Vérane Frediani.
Bonjour.
Vous êtes photographe, réalisatrice, féministe, militante, assumée, et marseillaise évidemment, auteur de Marseille cuisine le monde qui vient de paraître aux éditions de La Martinière, une mine d'or, un petit bijou, une mine d'adresses, de portraits, de Marseille. Marseille en vrai et sans vernis, Marseille populaire, assumée. Et qu'est-ce que ça fait du bien de la découvrir ainsi, j'ai envie de dire.
Donc j'ai envie Merci aussi Clémence.
De vous demander de nous y emmener à Marseille, là, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on mange? Quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'on fait?
Vous voulez dire si moi, là j'étais
maintenant
à Marseille?
Absolument.
Le mercredi, il y a effectivement un marché sur le cours Julien qui est très sympathique avec des paysans qui viennent directement vendre leurs produits. On peut discuter et c'est vraiment ça à Marseille qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de discuter, de tchatcher et de s'asseoir dans des cafés, des bars et écouter aussi tout ce qui se dit autour et comment on en parle, comment on se parle. Donc à cette heure-ci, oui, je serai forcément plutôt du côté du cours Julien. On a toujours la mer pas loin. Mais on n'est pas tout le temps au bord de l'eau non plus.
On la voit pas d'ailleurs au cours Julien.
Non.
Mais on la sent.
Moi j'ai grandi dans les 5 avenues, vraiment dans les boulevards Chaves, Eugène Pierre, la place Sébastopol.
L'hypercentre.
Oui, le centre-ville, ce que j'appelle un peu le ciment marseillais finalement. Parce que dans ce centre-là, on se croise tous, on aime beaucoup opposer le nord et le sud de la ville. Mais en fait, il y a un gros centre, un gros milieu où on passe.
Et vous mangez quoi?
Marseille n'est pas non plus une ville de poissons, donc je mangerai plutôt assez régulièrement de la viande et des légumes, des ratatouilles et des... Enfin, je suis très très amatrice de pieds paquets,
mais
autant de
lit,
couscous.
Imaginons, on est au lever du lit, alors là, et même à l'heure où on est diffusé, il est fin d'après-midi, voire début apéro, là, donc vous avez quoi entre vos mains?
C'est vrai. Des panisses, forcément.
Des panisses, forcément.
Des panisses que je fais très bien alors que je suis une mauvaise cuisinière, mais les panisses, je les fais bien. Les bouillies d'Itch Corse aussi, au fromage, je les fais super bien. Donc, oui, des apéros qui se transforment en repas et puis de la pizza, bien sûr.
Forcément.
Enfin, la pizza, c'est finalement un sine qua non pour une ambiance réussie hein, à Marseille. Hein.
C'est d'ailleurs par cette pizza que vous commencez votre livre « Marseille cuisine le monde ». On va rappeler quand même un petit peu, parce que Marseille, quand on arrive autour de cette ville, on oublie peut-être que, c'est vous qui l'écrivez, que la mondialisation, elle a commencé depuis 2600 ans à Marseille. Donc c'est une vieille histoire, parce que Marseille, c'est un port, c'est une capitale de Méditerranée, c'est un lieu d'échange perpétuel de marchandises. Il y a toujours eu du commerce à Marseille.
Oui.
Que ce soit avec un cabas ou un conteneur, en tout cas, on a toujours échangé. Et on a échangé du travail aussi. Ça a été un refuge pour beaucoup. Et là, vous m'entendez me dire, mais où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle va? Mais si, parce que dans toutes ces migrations et vagues migratoires, en un siècle, on va dire, en un siècle et demi, Marseille s'est construite telle qu'elle est un peu aujourd'hui, telle qu'elle a son visage un peu aujourd'hui. Première migration, très importante, la migration italienne. Puis sont venus les Espagnols, on a également Marseille-Corse, Marseille-Levantine, Marseille-Comorienne, Cap-Verdienne, Marseille-Marseille.
C'était son quartier, il y était né, rue des Petits Puits, à 2 couloirs de là où était né Pierre Puget. Son père avait d'abord habité rue de la Charité en arrivant en France. Il fuyait la misère et Mussolini. Il avait 20 ans et traînait derrière lui 2 frères, des nabots, des napolitains. 3 autres s'étaient embarqués pour l'Argentine. Ils firent les boulots dont les Français ne voulaient pas. Son père se fit embaucher comme docker, payé au centime. Chien des quais, c'était l'insulte. Sa mère travaillait aux dattes, 14 heures par jour. Le soir, Nabo et Babi, ceux du Nord, se retrouvaient dans la rue. On tirait la chaise devant la porte, on se parlait par la fenêtre, comme en Italie, la belle vie, quoi. Immigrés, exilés, tous débarqués un jour dans l'une de ces ruelles, les poches vides et le cœur plein d'espoir.
Jean-Claude Izot, Total Kéops, bien sûr, on l'a reconnu, qui dit aussi que d'où que l'on vienne, on est chez soi à Marseille. Ce texte, il a quel écho chez vous, Vérane Frediani?
J'ai mis du temps, en fait, à avoir assez de recul sur ma ville, finalement, pour comprendre qu'on pouvait être fier d'être Marseillais. Bien entendu, quand j'étais ado, j'étais fière d'être Marseillaise parce que l'OM nous a permis d'être fiers et d'exister, finalement. On réduit souvent l'OM au football, mais en fait, c'est bien plus que ça pour la ville. On avait besoin aussi de se sentir exister, reconnu. Et adolescente, quand je disais que je venais de Marseille, c'était vraiment mal vu, en fait. Et on avait cette façon d'essayer de s'adapter aux Français qu'on parlait en dehors de Marseille. Et j'en parle un peu dans le livre, ce double français qu'on a besoin d'avoir, en fait, quand on est Marseillais. On parle d'une certaine façon à Marseille. Et puis finalement, quand on monte à Paris, on essaie de s'exprimer un peu différemment. Et aujourd'hui, en fait, je peux être moi-même. Et je pense que beaucoup de Marseillais le vivent comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on est tous issus d'une migration, mais que c'est ça qui fait sens aujourd'hui, en fait. Marseille fait sens, notamment en France, où il y a globalement beaucoup de débats autour du mélange, et en fait, on se rend compte que le mélange, heureusement qu'il est là, heureusement que c'est notre présent à Marseille. Mmh. C'est ça qui nous fait tenir, d'avoir plusieurs cultures, plusieurs influences, ça nous rend beaucoup plus intelligents, beaucoup plus flexibles, et accessibles aussi aux autres. Et donc cette fierté marseillaise, aujourd'hui, elle est un peu différente, elle est plus profonde. Elle n'est pas seulement liée au football.
Ouais, voilà. Elle se porte aujourd'hui.
Oui.
Et elle s'affiche.
Oui.
Plus clairement.
On le voit même dans la mode, finalement. Il y a beaucoup de nouvelles marques marseillaises avec des slogans marseillais. Mais c'est pas juste des slogans pour touristes, en fait. C'est une façon de dire, regardez, en fait, on a toujours été unis. Nous, on a toujours été avant tout marseillais.
Parce que c'est ça, en fait, en arrivant à Marseille, alors qu'on venait d'ailleurs, on acquérait, entre guillemets, l'identité marseillaise. Donc on pouvait se revendiquer, non pas d'ailleurs, certes, mais marseillais, comme une nouvelle vie.
Oui, oui, de toute façon, on est tous arrivés là pour avoir une nouvelle tranche de vie. Bon, moi, je suis née à Marseille, mais mes parents, mon père est arrivé de Corse, mon grand-père maternel est arrivé d'Italie. On est tous arrivés avec... dans la famille, on a ces histoires de personnes qui ont posé leurs bagages et qui ont fait comme ils ont pu. Et Marseille est un formidable terrain pour ça. C'est un champ des possibles très vaste. Et dans la gastronomie aujourd'hui, on le voit aussi. De jeunes chefs ouvrent leur restaurant à Marseille. Mais c'est logique. C'est possible, en fait. C'est encore accessible, même financièrement parlant. On peut vivre avec peu d'argent à Marseille. D'ailleurs, on vit tous avec peu d'argent à Marseille. Enfin, globalement, c'est une ville très populaire. Vu de Paris, on a parfois l'impression que les quartiers sud sont très riches, que les quartiers nord sont très pauvres. Mais en fait, attendez, celui qui a un peu d'argent à Marseille, c'est un cacou, quoi. C'est tout. On est globalement populaire.
Bien sûr, c'est pas une ville bourgeoise. C'est vraiment une ville populaire avec une histoire, d'ailleurs, on est dans un port. Faut pas l'oublier, ça. Et ce port-là marque, de toute façon, sa culture et ouvrière. Et industriels, et les dockers, c'est toute son histoire, ça.
Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, on était montré du doigt comme une ville populaire. Ouh là là, Marseille. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe.
Ouais,
on attire grâce à cette popularité.
Oui.
J'exagère un peu parce que je suis marseillaise.
Oui, alors il faut noter ça. Donc on enlèvera tout de suite les surplus d'exagération parce que ça reste quand même une ville populaire, l'une des plus pauvres villes de France.
Il y a plein de problèmes à Marseille, mais d'ailleurs on n'a pas de problème à en parler.
C'est ce qui fait peut-être sa particularité aussi.
Je pense.
Du coup, bon, on a quand même commencé cette émission avec une part de pizza dans la main. Alors je vous trouve très culotté quand même, parce que au début de votre livre, on commence direct avec le camion à pizza, on est d'accord, et vous donnez une liste.
Oui, j'ai pris des risques.
On est d'accord, parce que la pizza, c'est quand même emblématique. Le camion à pizza, il y a d'ailleurs très peu de villes en France où on a des camions à pizza.
Ouais.
Pour des questions sanitaires, de sécurité, et vous donnez une liste. Alors, laquelle est votre préférée? Et déjà, si... Non,
j'ai on va pas... une liste, je peux pas. En plus, vous en donnez qu'une seule.
Bon, alors, ce qu'on va dire, c'est...
Je tiens à ma vie.
Est-ce qu'il y a une pizza qui, pour le coup, ne se fait qu'à Marseille?
Non, je pense qu'il y a un lieu comme chez Étienne, dans le panier, qui ne peut être qu'à Marseille. Parce que, forcément...
Parlez-nous de chez Étienne.
Chez Étienne, il n'y a pas de carte, il faut se laisser porter. la pizza est magnifique, mais quand vous en redemandez une deuxième, on vous regarde un peu en disant, oulala, tu serais pas un touriste, toi?
Tu serais pas un peu resté déjà trop longtemps?
Non, mais est-ce que tu vas nous faire le coup de passer qu'une fois et dire que tu connais bien chez Étienne?
Allait chez Étienne pas par hasard. Il fallait presque être introduit chez Étienne.
Oui, de toute façon, il faut passer la porte avec sur le visage une assurance montrant qu'on sait bien où on va, où on est, voilà. Et au premier regard, de toute façon, ils savent bien si vous êtes déjà venu ou si vous tombez du nid. Mais il faut se laisser porter. C'est vrai que j'ai vu quelques touristes demander la carte. Ça, c'est toujours très drôle. Et puis l'addition. L'addition n'est la même pour personne.
Ça, c'est le côté italien, j'imagine.
Mais bon, ça aussi, peut-être qu'aujourd'hui, c'est en train un petit peu de changer. Mais chez Étienne, oui, ça mérite un arrêt. Lancez-vous, osez, c'est pas grave.
On osera, mais de toute façon, l'adresse est dans votre livre. Oui. Et on la mettra sur la page du Goût du Monde.
Bien sûr.
Une pizza marseillaise, s'il y en avait une. Création marseillaise.
Non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, chaque culture a posé ses ingrédients sur la pizza. Donc, moi, je vous répondrai une pizza corse avec un peu de mousse dessus ou du figatelle. Voilà, ce serait ma pizza peut-être.
On est bien, c'est la définition de la pizza. D'ailleurs, autre galette complètement incontournable, essentielle, identitaire quasiment, le pois chiche pour trait d'union des Suds en friture. C'est, et vous en avez parlé déjà un petit peu, la panisse. Et c'est aussi un souvenir d'Estherelle Payeni, journaliste et critique gastronomique.
Ah là là, mais c'est une histoire d'amour. Le pois chiche, c'est vraiment la friandise qu'on mange avec la panisse, qu'on mange à l'estac, frite en rondelles. Et on la mange salée ou sucrée. Et c'est un souvenir, moi je la mangeais au bord de la plage, donc même quand elle est saupoudrée de sucre glace, la panisse, il y a un peu le goût du sel, parce qu'on a le goût, quand on s'est baigné, on a un peu de sel sur le bout des doigts. Ce qui est bon, c'est que ça se mange avec les doigts, la panisse. Et c'est un peu la même culture que le cornet de frites belge, quelque part. C'est quelque chose qui se mange en dehors du repas. Il n'y a pas d'heure pour manger de la panisse. Au petit-déj, à midi, à 4 heures, on la mangeait à la sortie de l'école. Bon, moi, j'étais pas scolarisée dans le quartier, mais il y en a qui la mangeaient à la sortie. Il y a la queue hein, au kiosque à Panisse et à Chichi au moment de la sortie de l'école. L'Estac, c'est le centre du monde. L'Estac, c'est les deux cabanes à Panisse et à Chichi parce que ça va avec la culture du Chichi. Et la Panisse le matin, le Chichi à 4 heures, ouais.
Et voilà, l'Estac, le centre du monde. On est encore dans une bonne exagération marseillaise.
Oh là là. Mais
on a envie, là.
Vous avez envie d'y être. Panisse. Vous avez envie d'y être.
Clairement.
Vous voyez, le centre du monde, ça attire.
Alors, on a cette panisse, la galette de pois chiche, italienne aussi, la cecina qu'on peut trouver.
Dans le livre, oui. Mais aussi la calentica algérienne. Voilà. Et je pense que là aussi, à Noailles, il faut se laisser porter. Il y a une énorme queue aussi pour la galette algérienne au comptoir des Beaux-Arts, où tout le monde passe et tout le monde la mange avec ses propres recettes, en fait, et se l'approprie. Je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui aussi dans la gastronomie française, c'est de pouvoir ouvrir ses portes à toutes ces cultures culinaires et en même temps les réinventer, les mélanger.
Quand vous dites la galette algérienne, vous parlez de la calentica ou vous parlez de la kessra, là ?
Kessra.
La kessra. Donc ouais. Là, la kessra...
Ouais, je trouve que c'est quand même pas mal.
De très jolies photos dans votre livre aussi. Une femme qui les fait, qui a donc découvert les premières photos du livre et qui s'est découverte comme membre.
En fait, au comptoir des Beaux-Arts, c'est une équipe très féminine et qui a découvert le livre lundi dernier. Il y avait une forte émotion. L'émotion est venue de se retrouver dans un livre où on met la kessra algérienne à quelques pages d'une recette d'Alexandre Mazia.
Trois étoiles.
Trois étoiles marseillais, qui aujourd'hui porte un peu la ville, mais donc toute la ville. Et le livre a vraiment été fait dans cette optique-là, c'est-à-dire nous sommes tous marseillais, unis, et toutes les cuisines sont marseillaises, à partir du moment où vous êtes là dans ces rues en train de la proposer.
C'est beau ça. Cette calentica, c'est une mémoire algérienne. La mémoire algérienne, elle est aussi liée à un quartier. Vous avez dit Noailles, j'ai envie de dire Belzins.
Aussi.
On sort d'une ronde, Belzins Rickdown.
Belzins, quand on n'est jamais allé à Marseille.
C'est un peu la cour des miracles, c'est quand même un gros mélange. Et aujourd'hui, on essaie progressivement d'anoblir un peu ce quartier, qui n'en a pas forcément besoin. Mais même les Marseillais, à un moment donné, ont eu du mal à se sentir bien à Belzunce. Il y a eu un petit moment de doute et aujourd'hui, je trouve que finalement, on est dans une période où aussi bien Belzunce que Noailles sont des quartiers très ouverts où tout le monde peut passer, manger, boire. On revient d'une période plus difficile, c'est plus facile aujourd'hui, je trouve.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
C'est pas pour moi, vos caméras. Petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut. Le nez toujours fourré dehors. Tu te rappelles, petite sauvage, toujours entourée de fauves. Belle étoile, livrée à nous-mêmes, pointée du doigt, mais enfant d'une force. Tu te rappelles, même sans réenfance, la chance sourit à l'audace. Même alors, bouchons les tympans, quand parle les prêcheurs du blasphème. Les petits teigneux ne se rendent pas. Oui, j'ai osé dire non. Je les écouterai quand ils parleront d'humanité avant de parler de millions. Sous les néons, oui, j'ai rêvé de m'en sortir. Mais comment guérir de la pénombre quand celle du monde est encore pire? Alors je lutte contre mes démons, sorti de mes années, sorti de moi. Je connais pas la vie d'artiste, ma vie entière c'est du hors-piste. À avancer dans le désert ou postiché sur ma dune, à mater la pente abrupte entre le ciment et la lune. Oui, pour marcher dans la lumière, j'attends pas que les spots s'allument. C'est au nom de l'enfant d'hier que mon insolence vous salue. Rien à carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or pourtant captif comme toi, cosse de Babylone. Mais pas dans vos casques qui nous cassent, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de plus long. Rien à carrer de la vie d'artiste, petite n'a pas changé de bord. Je suis celle que l'on prenait de haut, le nez toujours fourré dehors. Je me moque de l'or pourtant captif comme toi, cosse de Babylone. Mais pas dans vos casques qui nous cassent, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de plus long. Pour moi, tous vos trophées, je suis celle qu'on condamnait au pire. Tête brûlée, rêve atrophié, tout votre système m'a fait vomir. Vos rêves de star ne sont pas miens, comment pourriez-vous me comprendre? Je confonds pas le but avec le moyen et je vois bien que le monde tremble. Tu te rappelles de nos promesses, tu te rappelles, le temps les a-t-elle emportées? L'eau a coulé sous les ponts et depuis qui a emporté? Arbitraire, loin des hommes, loin du cœur, même près des yeux. Justicier de pacotille, ici des hommes se prennent pour Dieu. Tu te rappelles, issu d'une jeunesse furieuse, petite éternelle fugueuse, éprise de liberté, je m'en tape de faire du buzz. Je suis l'artiste de personne, je suis la plume de mon âme qui était là quand petite fille domiciliée sur macadam. Personne, monde de chien, je rentrerai plus dans sa cabane. Anti-système et je fais du rap, oui, je représente ton amalgame. Adolescence sous les étoiles, où l'Odyssée est une cavalcade. J'en garde les traces et j'oublie pas combien l'homme peut être un bâtard. Rien à
carrer. Vie d'artiste de Kini Arcana sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde à Marseille avec Vérane Frediani, auteur de Marseille cuisine le monde aux éditions de La Martinière. Un premier livre depuis l'Empèbre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire depuis des lustres sur les marmites marseillaises. Marseille, bouillon de culture et d'échanges méditerranéennes. Donc on a quitté Belzunce, mais on ne va pas complètement quitter Belzunce parce qu'il y a la rue d'Aubagne qui n'est pas bien loin de Belzunce, sur la Canebière en face. Un mot de cette rue d'Aubagne avec un beau face-à-face, rue d'Aubagne.
Oui, c'est vrai. Mais juste, je voulais revenir sur Kini Arcana deux
bien
minutes
sûr.
Parce que je
c'est vous qui l'avez
que...
choisi.
Oui, c'est un morceau que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je pense qu'il est très personnel pour Kini Arcana, mais en fait, il représente l'esprit marseillais complètement. Et toutes les paroles peuvent s'appliquer à ce que Marseille vit aujourd'hui. On essaie de nous mettre des paillettes, des étoiles, mais on restera Marseille. Et heureusement, et on n'a pas envie de changer. En fait, on se souvient de comment on parlait de Marseille il y a encore 10 ans ou 15 ans, et on est restés les mêmes. Donc effectivement, on a plein de nouveaux spots qui s'allument sur nous, sur Marseille, mais on ne changera pas. On ne deviendra pas Ibiza, on ne deviendra pas un refuge pour Parisiens qui cherchent à s'encanailler. Enfin, voilà, on reste nous-mêmes. En fait, comme je l'écris dans le livre, Marseille fabrique des Marseillais. Donc, quand vous viendrez à Marseille, soit vous n'aimerez pas la ville et vous repartirez, soit vous resterez et vous deviendrez Marseillais.
D'ailleurs, il paraît qu'on passe à Marseille. On ne va pas à Marseille, on passe à Marseille.
Alors ça, je trouve, c'est pas tout à fait vrai. Je trouve qu'on s'arrête à Marseille et qu'on a beaucoup de mal à en repartir. C'est je pense, plutôt comme ça.
Moi, ça me va.
Mais pour reparler de Noailles, oui, vous voulez parler de l'idéal face à chez Yacine.
Oui.
Oui, c'est une jolie histoire aussi, en fait, avec Julia Samud qui a des origines tunisiennes. Donc forcément, avoir installé son épicerie face à un restaurant tunisien mythique, culte, ça a beaucoup de sens, oui, chez Yacine, ça a beaucoup de sens. Et ils s'entendent très bien, et il y a des battles de couscous entre les deux, parce qu'effectivement, la maman de Julia Samud, qui est Irène Samud, fait très bien le couscous aussi. Donc, et puis pas loin, vous avez le Fémina qui fait un couscous à l'orge. Donc, il y a des battles de recettes dans la rue d'Aubagne ou dans le quartier de Noailles. Et c'est très bon enfant, en fait, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entraide entre tous ces restaurateurs et ces entrepreneurs, finalement, qui rendent le quartier de Noailles un peu moins replié sur lui-même. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure sur Belzunce. Ce sont des quartiers aujourd'hui qui sont un peu moins repliés sur eux-mêmes, plus ouverts. Et bon, ça, c'est une évolution qui fait du bien, bien sûr.
Le couscous, ça, c'est un bon ciment, le couscous. D'ailleurs, il y a un festival à Marseille chaque année.
Fin août, début septembre. Cette année, il aura lieu. Début septembre, c'est organisé par les Grandes Tables, la Friche de la Belle de Mai. On est un des lieux majeurs avec leur grand toit terrasse. Mais de plus en plus de restaurateurs y participent. C'est pour ça que dans le livre, j'ai voulu mettre plusieurs recettes de couscous aussi, parce que là aussi, on pose sa propre culture culinaire sur le couscous aujourd'hui.
Et d'ailleurs, il y a Georgiana Aviou, oui, qui est béninoise, qui fait également un couscous. On se l'acquiert, on se l'attribue, ce couscous.
Georgiana, qui a d'ailleurs fait un livre aussi sur la cuisine du Bénin dernièrement, Le goût de Cotonou, c'est formidable.
Oui, complètement.
D'avoir la possibilité aussi de mettre en avant chaque cuisine africaine, enfin.
Là, je vais très vite, là, parce qu'on va quitter Belzunce, on va tout de suite aller... Donc, il y a Marseille, la cité, la mer, les Goudes, au bout du monde, d'un côté, l'Estac, de l'autre côté, et tout autour, il y a des collines. Il y a Marseille Vert, la Buzine, et tant d'autres collines. Donc, une institution, notamment également à Marseille, à Noailles, le Père Blaise, qui est un herboriste, dans le centre de la ville. Donc, on voit combien les plantes, les fleurs étaient dans les maisons, dans les cuisines et dans les pharmacies chez les Marseillais. On voudrait savoir ce que devient ce patrimoine. Il y a quelqu'un qui s'appelle Célia Brousgoutte qui est avec nous. Bonjour Célia.
Bonjour Clémence, bonjour Vérane.
Je vous ai découvert grâce à Vérane car vous êtes dans les pages de son livre. Et vous proposez, Célia, des balades de découverte de ce patrimoine et de ce savoir-faire à Marseille qui est la connaissance des plantes. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu de quelle manière, en fait, les gens reçoivent ces balades dans les collines avec ce patrimoine qui est à portée de main ?
Alors, ce sont des balades qui sont ouvertes à tout le monde. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on prenne le temps de nouer un premier contact avec la plante, avant de même savoir son nom et ce qu'on va pouvoir en faire. Vraiment de prendre le temps de voir ce qu'on ressent, nous, individuellement, quand on voit cette plante, quand on la touche, quand on la sent. Est-ce que ça va nous évoquer des choses de quand on était enfant ou pas ? Et puis, de prendre le temps de les décrire. Pour vraiment, après, quand on est seul, pouvoir les reconnaître sans avoir l'aide de quelqu'un. Et donc devenir un peu autonome assez rapidement dans notre cueillette et dans notre usage au quotidien.
Et quelles sont les plantes qui étonnent le plus ?
Des plantes qui sont assez connues de tous déjà, et souvent on ne connaît pas forcément tous leurs usages. C'est vrai que des plantes comme la pâquerette ou le plantain qu'on va piétiner tous les jours et que tout le monde connaît on ne sait pas comment les utiliser. Et, par exemple, le plantain, en plus de pouvoir le manger, on va pouvoir aussi se soigner avec, notamment apaiser les piqûres des insectes, aider à cicatriser et désinfecter des plaies. La pâquerette, ça va pouvoir remplacer l'arnica, car on n'est pas en montagne, donc nous n'avons pas toute la richesse des plantes que l'on peut trouver en montagne. Et donc, la pâquerette va remplacer les effets sur les coups et les hématomes que pourrait avoir l'arnica. Ça, par exemple, c'est des plantes qui surprennent assez souvent. Après, il y a des plantes aussi dont on sait utiliser les fruits, comme le figuier, mais on ne sait pas qu'on peut aussi utiliser les feuilles pour donner du goût à des desserts, à des boissons ou à du poisson en papillote. Et ce qui surprend le plus, c'est quand je dis que les glands peuvent se manger et que tous les glands sont comestibles. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est réservé aux cochons et aux bêtes. Et en fait, c'est très bon. C'est un petit goût comme la châtaigne. Et c'est même plus nourrissant que la châtaigne. Ça dépend de l'arbre sur lequel on l'a cueilli. Il y a des sortes qui sont plus ou moins riches en tanins, qui vont faire que, comme ça cru, il est toxique. Et donc, il va falloir le cuire dans plusieurs eaux. Donc, suivant la richesse en tanins, ça va être de 4 à 7 fois. On va le faire bouillir dans une eau. On va attendre un petit peu. et puis l'eau va devenir toute noire. On va jeter cette eau, on va refaire bouillir dans de l'eau nouvelle et attendre que ça soit noir, rejeter et ainsi de suite jusqu'à ce qu'en fait il n'y ait plus cette eau qui devienne noire. Et quand on goûte, en fait, on voit que c'est bon. Là, quand en fait, si on le goûte directement comme ça cru, on va sentir que c'est trop amer et ça va pas, il va falloir faire quelque chose. D'accord. Et après, à partir de ça, une fois que l'on l'a rendu comestible, on peut en faire une farine. Il y a des recettes de pâté de gland. C'est une espèce de gâteau un petit peu.
D'accord. On notera peut-être la recette sur la page du Goût du Monde également de ce pâté de gland. En tout cas, il y a dans le livre de Véran de Bossa Moussa également.
Oui.
Hein, Véran.
Oui.
Et des immortels, on peut en cueillir des immortels ou on vaut mieux les laisser dans la nature?
En Corse, c'est une espèce qui est protégée, mais par chez nous, c'est l'espèce commune, donc on peut l'accueillir. Bien sûr, quand on cueille de manière générale, que ce soit pour l'immortel ou pour toute autre plante, on veille à ce que la plante soit présente en quantité et à ne pas tout piller sur place.
Les gens qui viennent vous voir, qui vous découvrent, les Marseillais, est-ce que vous avez peut-être des anciens Marseillais, des Marseillais depuis très longtemps, qui du coup découvrent les collines, leur réaction c'est quoi?
Alors oui, en fait, en général, c'est vrai que les personnes que j'emmène dans les balades sont assez surprises de découvrir ces lieux assez sauvages, finalement tout proches de la ville, parce que souvent, on a juste pris un métro ou un bus pour arriver au pied de la balade. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte qu'à Marseille, on connaît beaucoup les calanques, mais on ne connaît pas toute cette verdure en fait qui est dans les collines et on en parle très peu.
Et ben voilà. On rend aux collines un petit peu de voix. Merci beaucoup, Célia Brousgoutte. La Drai Comestible, j'adore ce nom, c'est le nom de votre site, si on veut vous trouver et donc faire des promenades et des découvertes avec vous. La Drai étant ce petit chemin, un peu sauvage quand même, oui. On est d'accord.
Le chemin fait par les bêtes, oui.
Voilà. Merci beaucoup, Célia. Merci, à bientôt.
Merci également, au revoir.
Véran.
Vous parliez des collines, en fait, il faut parler aussi d'Aubagne, qui est finalement dans ces collines-là, ou du moins au pied de ces collines-là. Et il y a un homme, Guillaume Ferroni, qui remet au goût du jour beaucoup d'alcool ancien et spiritueux ancien et qui se sert beaucoup des plantes justement de ces collines-là. Mmh. Célia travaille aussi avec lui. C'est Bigoud aussi, l'association qui fournit beaucoup de restaurateurs marseillais en plantes sauvages, travaille aussi avec lui. Il fait un travail remarquable et il faut s'intéresser à son pastis qui est une sorte... d'œuvre d'art en soi.
On s'intéressera au pastis, je suis d'accord. Est-ce qu'on mettrait quelques herbes cueillies dans les collines dans notre soupe,
Véran? Bien sûr, vous pouvez. La mauve qu'on a utilisée justement pour faire nos samosas peut s'utiliser dans pas mal de choses. Et puis, mais il faut connaître, attention. C'est pour ça que...
Oui, c'est comme les champignons, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Oui, le travail de Célia est vraiment important parce que beaucoup de Marseillais ne connaissent pas bien leurs collines non plus. On sait ramasser du thym, oui, certes, et... il faut tout de même savoir aussi où le cueillir pour être sûr qu'il n'y ait pas eu des animaux qui soient passés, pas près des rivières non plus, pas d'un cours d'eau. Donc, il faut apprendre tout ça.
C'est tout un savoir-faire, on est d'accord. Oui. En fait, je vous emmenais un peu maladroitement sur le côté de la soupe, hein, qui est quand même une affaire totalement intime également à Marseille. On est d'accord, la soupe au pistou.
Soupe au pistou.
Ah, pardon.
Attention, et le pistou n'est pas le pesto.
Non, on est d'accord. Alors, quelle est la différence? Comme ça, on est tranquille.
Non, je pense surtout qu'en fait, l'esprit de la soupe au pistou, c'est vraiment une soupe familiale que chez moi, on mangeait le dimanche soir avec pas mal de légumes et des pâtes aussi dedans. Et ça revient dans beaucoup de soupes du sud. On met des pâtes aussi parfois pour épaissir un peu et faire en sorte que les enfants mangent la soupe. Dans la soupe de poisson aussi, d'ailleurs, on met des spaghettis coupés. Hein, c'est très courant et je pense que... La soupe doit être nourrissante.
La soupe, en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait chez soi. On invite aussi pour partager une bonne soupe et notamment une bouillabaisse. Alors la bouillabaisse, finalement, c'est peut-être pas la première qu'on va faire quand on est à Marseille parce que c'est une soupe qui, historiquement, n'est pas une soupe riche puisque c'était la fin de la pêche. Ce qu'on n'avait pas pu vendre comme poisson.
Enfin, la bouillabaisse, honnêtement, à Marseille, on en mange très peu, finalement.
Oui,
très, très peu. Et dans une ville marseillaise, on en mange peut-être une ou deux fois. Et finalement, c'est devenu très cher dans les restaurants. C'est pas forcément bon. Alors, je donne dans le livre des adresses, mais je pense que mieux vaut prendre sa canne à pêche, aller pêcher ce qu'on peut, et puis inventer sa bouillabaisse. Oui, c'est un plat de pauvre, bien sûr. Au départ, c'était vraiment un plat de pêcheur, hein. Si vous avez la chance, en fait, d'être invité par des pêcheurs, c'est le moment où il faut manger une bouillabaisse.
Ouais, c'est là où on pourra vraiment goûter.
Au goût, on peut la manger aussi, hein, d'ailleurs. Mmh. C'est quand même l'endroit où on peut manger une vraie bouillabaisse.
Dans le restaurant, alors, du coup.
Oui, oui, oui.
Juste un mot sur cette soupe au pistou avant de revenir sur la bouillabaisse, cher Vérane Frediani. On est d'accord qu'à chaque famille, sa soupe de pistou ?
Oui, et c'est un petit peu le cas pour le pistou tout court, en fait. À chaque famille, son pistou. Certains y mettent du vieux edam, du fromage. Certains font le mélange avec la soupe à la dernière minute. D'autres le font la veille pour que tout ça macère bien et servent la soupe après une journée de macération quelque part. Donc il y a plusieurs techniques, j'en donne une dans le livre, mais effectivement vous ne mangerez pas partout la même soupe au pistou. Ce qui revient à chaque fois, c'est l'utilisation de haricots blancs frais, de haricots rouges frais, de mettre effectivement des spaghettis coupés dedans, des haricots verts, des courgettes, des pommes de terre, tout ça. Oui, la base est là. Mais la technique, je vous livre un secret dans le livre, mais en fait, chaque famille aura son secret.
C'est ça qui est bien, qu'il transmettra ensuite, d'ailleurs.
Mais c'est pour ça que ce livre est là aussi, c'est pour que quelques recettes soient bien transmises, bien écrites.
Je voulais quand même vous emmener dans cette bouillabaisse dégustée avec Marie-Josée Ordener. Nous étions à Calais, au Chanel, donc centre culturel un petit peu. Marie-Josée Ordener, c'est la cofondatrice des Grandes Tables à Marseille. C'est une association du quartier de la Friche de la Belle de Mai, près de la gare Saint-Charles, qui mêle cuisine et art, une cuisine grande ouverte, une figure de la vie culturelle marseillaise, Marie-Josée Ordener, et une sacrée femme.
Moi, je fais à manger pour nos amis qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, un plat qui vient de Marseille, qui s'appelle la bouillabaisse. Parce que venant travailler aux grandes tables, c'est quand même important de savoir que ça vient de Marseille.
Donc j'ai amené un bout de nous.
Ça fait longtemps, la relation entre les cuisines africaines et les grandes tables.
L'Afrique et Marseille sont une grande histoire. Oui. Marseille, c'est beaucoup l'Afrique du Nord quand même. Nous, on est surtout ouvert à tous les gens qui aiment cuisiner. Comme dirait Yves Candebord, il dit, dans la mesure où on aime et qu'on fait la cuisine avec amour, elle est forcément bonne, la cuisine. Et je crois que ça peut être une devise des grandes tables, d'accord, avec tous nos divers projets, avec des chefs professionnels ou des chefs amateurs, dans ce sens large du mot amateur, qui est aimé. C'est plus ce que les gens transportent avec eux. On veut les faire valoir tout ce travail qu'ils font et faire connaître surtout, parce qu'au final, on ne sait pas. Mais qu'il y a toute cette pratique des femmes qui montent de plus en plus autour de la cuisine, mais pas que de la cuisine. C'est-à-dire que souvent, les femmes, dans les cuisines, revendiquent et mettent en avant et des producteurs, et d'autres femmes, et des façons de cuisiner. C'est-à-dire qu'elles ne calquent pas des choses qui arrivent d'ailleurs, mais elles ont totalement en elles les traditions qu'elles réadaptent et qu'elles mettent au goût du jour. On ne peut pas oublier ce qu'on est, ni d'où on vient. Ça, je crois que les femmes, c'est quand même elles qui l'ont en elles, globalement dans le monde.
Marie-Josée Ordener, dans les cuisines du Chanel, c'est pour ça que le son, il faut un peu tendre l'oreille, calque pas, les femmes ne calquent pas, mais réinventent. J'imagine que vous êtes d'accord, Vérane ?
Oui, on a beaucoup eu de doutes, côté masculin, sur la créativité féminine en cuisine. Et Marie-Josée a tout à fait raison. On est sans arrêt, en fait, en train de réinventer chaque recette avec ce qu'on a dans le frigo, avec ce qu'on peut acheter sur un marché. Donc, oui, oui.
Mais à Marseille, même, ce qui est incroyable, c'est quand on va dans le panier, par exemple. J'ai un souvenir très vif de cette dame qui faisait du chocolat, qui le faisait sécher sur des tables en plastique. En table d'extérieur. Et à côté, il y avait une cahute, juste une fenêtre qui s'ouvrait sur la rue et la dame proposait des plats à emporter. Et des plats marseillais.
Et ça se fait beaucoup dans Belles aussi, d'ailleurs.
Oui, mais ça, c'est aussi cette cuisine féminine de Marseille.
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, de femmes qui ont ouvert des restaurants à Marseille et qui n'ont pas fait une école de cuisine. Et là aussi, il y a beaucoup de créativité.
C'est une voie d'intégration aussi. Je pense notamment à cette chef comorienne. Alors, Nadjati Bakarmiz, on est typiquement là-dedans. Elle a aussi ouvert un restaurant parce que c'était une chance de faire autre chose dans sa vie.
On est une ville, je trouve, très féminine finalement, parce que beaucoup de restaurants sont tenus par des femmes à Marseille. Et ça leur permet effectivement d'acquérir une indépendance financière grâce à un savoir qu'elles ont. Je pense que massivement, les femmes se sont décomplexées et ont vu qu'avec leur savoir culinaire, elles pouvaient suivre leur passion, bien sûr, pour beaucoup d'entre elles, mais aussi une carrière. Nadjati, d'ailleurs, travaille aux grandes tables à la Friche de la Belle de Mai cet été, tout l'été. Et vous pouvez déguster sa cuisine là-bas, je vous y encourage.
Jeff Fada, je crée des gueules, je vous prenne tous ici, un par un.
Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3/4 en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, Nebuloni. Dès qu'il passait, Cameo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia.
Tu mets au temps du fun que je danse le Mia.
Je danse le Mia.
C'est le pionnier enfant pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
Ce soir les bagues brillent pour danser le Mia.
Je danse le Mia. Le Mia, jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose.
Oh cousine, tu danses ou je t'explose.
Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué.
Oh comment tu parles à ma soeur.
Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, dont je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8C73, JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse mon Vietnam sur le volant, avec la moquette. Pare-soleil pionnière sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros
sur mon père.
La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malin, Coco, la Toupa, la Marley, Pascal et Terrasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse, à côté des personnes, ne touchait une bille. On dansait le Mia.
I am sur RFI, groupe iconique marseillais aux origines du rap, musique, culture. Je danse le Mia, 20 ans bientôt, c'est fou ça.
Véran. C'est fou d'ailleurs, oui. Je danse encore le Mia.
Et vous dansez, j'en suis sûre, chez vous. En tout cas, je l'espère, comme nous en studio, Véran Fedriani, notre invitée marseillaise, photographe, réalisatrice et auteure de Marseille Cuisine le Monde aux éditions de La Martinière. Avec ce livre d'ailleurs, Véran donne vraiment une voix, c'est ce que j'ai dit au tout début de cette émission, c'est-à-dire une voix à ceux qui font la cuisine et à ceux qui l'ont créé, qui la font, qui la recréent aujourd'hui à Marseille. Et ça, c'est vraiment un portrait cosmopolite. J'ai dit bouillon de culture, je crois que je suis pas tellement loin de la vérité.
Oui, je voulais en fait que tous les participants au livre se l'approprient et en fassent un peu leur livre. Donc j'ai vraiment tendu le micro, pour le coup, à une cinquantaine de personnes pour qu'ils me racontent leur Marseille, leur vécu. Et leur cuisine. Mais c'est, comme dans tout ce que je fais, une approche très sociale et sociétale, en fait, de la cuisine. Je suis pas à la recherche précisément de conseils culinaires. Je veux comprendre ce que la cuisine apporte à Marseille, notamment dans ce cas, mais apporte à la société et comment la cuisine et la gastronomie peuvent changer la société dans laquelle on vit et l'améliorer. Créer du lien.
Ma maison, c'est un cabanon, comme presque toutes les maisons ici. Des briques, des planches et quelques tuiles. Le mien était construit sur les rochers au-dessus de la mer. Deux pièces, une petite chambre et une grande salle à manger cuisine, meublée simplement de briques et de brocs. Une succursale d'Emmaüs. Mon bateau était amarré 8 marches plus bas, un bateau de pêcheur, un pointu, que j'avais acheté à Honorine, ma voisine. Ce cabanon, je l'avais hérité de mes parents. C'était leur seul bien et j'étais leur fils unique. Nous y venions les samedis en famille. Il y avait des grands plats de pâtes en sauce avec des alouettes sans tête et des boulettes de viande cuite dans cette sauce. Les odeurs de tomates, de basilic, de thym, de laurier emplissaient les pièces. Les bouteilles de vin rosé circulaient entre les rires. Les repas se terminaient toujours par des chansons. D'abord celle de Marino Marini, de Renato Caresson, puis les chansons du pays. Et en dernier, toujours Santa Lucia, que chantait mon père. Après, les hommes se mettaient à la belote. Toute la nuit.
Parce que la cuisine, c'est ça aussi, je crois. Hein. C'est être ensemble, partager. J'ai l'impression que c'est difficile de définir une cuisine marseillaise. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je préfère dire les cuisines marseillaises.
Est-ce que c'est pas plutôt une façon d'être ensemble ?
C'est une façon de donner de l'amour, c'est une façon de partager, c'est une façon aussi de créer du lien. On rencontre l'autre grâce à sa cuisine. Marseille en est un parfait exemple. Oui, c'est vrai. Donc la cuisine marseillaise, c'est un état d'esprit surtout. Et puis surtout, on cuisine avec ce qu'on a. Ouais. Tu sais, le système D, la débrouille, on a tous des petits réflexes, mais à Marseille, on sait cuisiner les restes. D'ailleurs, Esther L nous a écrit un magnifique livre sur les restes. Et Esther L est marseillaise.
J'ai posé la même question à Esther L. Ah. Est-ce que c'est Marseille qui cuisine le monde ou le monde qui se réinvente à Marseille?
C'est vraiment une ville-monde. C'est un peu caché parce que on cherche qu'est-ce qu'ont en commun tous les Marseillais finalement, à part le foot qui reste quelque chose de très marqué culturellement, ben, c'est le fait de pouvoir manger simplement avec ses doigts à peu près à tous les coins de rue. Et que c'est quelque chose qui est vraiment singulier à Marseille, que j'ai pas retrouvé ailleurs en France. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Alors, le monde vient à Marseille naturellement parce que c'est un port, mais à Marseille, tout le monde vient de quelque part. Et les Marseillais oublient très vite d'où c'est venu. Et il y a une acclimatation énorme de toutes les spécialités. Je pense à la pizza à la viande hachée. Par exemple, elle est sur la carte de toutes les pizzerias marseillaises. Là où on mange des pizzas, hein, pas des pizzas, on mange de la pizza à Marseille. Et la pizza à la viande hachée, ben, on appelle ça pizza arménienne. Et moi, en arrivant à Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis, je vois le Lamlacoum et je fais « Ah, vous mangez des pizzas arméniennes ?» Ils disent « N'importe quoi, Esther L. » Et c'est ça, c'est que quelque part, très rapidement, on oublie d'où ça vient parce que ça devient marseillais, en fait. Il y a un phénomène de syncrétisation, de créolisation presque des plats qui est vraiment impressionnant à Marseille. C'est un vrai creuset. Ou un mortier pour la yoli, si vous préférez.
On est d'accord. C'est vraiment quelque chose qui est un fil conducteur qui se dégage. Et ce qui est magique, c'est qu'on a cette identité marseillaise et qui va s'essaimer ensuite.
Il y a une vraie unité qui s'est créée dans l'identité marseillaise. Alors oui, c'est beaucoup grâce à la cuisine. C'est aussi cette nostalgie qu'on a tous, qu'on transporte de génération en génération. Cet espoir qui a été mis sur l'arrivée à Marseille, qui est vrai aussi pour les nouveaux venus, ceux qui aujourd'hui essaient de, notamment en cuisine, de lancer leur carrière en solo à Marseille. Il y a une certaine nostalgie qui nous rapproche tous aussi des souvenirs de famille ou qu'on nous a racontés. D'ailleurs, au mois d'août, historiquement, Marseille se vidait parce que chacun allait voir justement sa famille ailleurs et revenait en septembre. Aujourd'hui, le mois d'août est café de monde, comme nous dirions à Marseille. C'est rempli à ras-bord de touristes notamment et ça change beaucoup d'ailleurs l'ambiance du mois d'août à Marseille. Mais le Marseillais, en général, a besoin aussi d'aller se ressourcer dans une partie de sa famille, en général, qui habite ailleurs, qui est forcément loin. Et puis, moi, je suis plutôt issue de la vague italienne. Et on a vu à quel point on a changé de point de vue sur l'Italie, sur la culture italienne. Et aller en Italie aujourd'hui, c'est très chic. Manger italien, c'est très chic. C'était pas le cas, surtout d'ailleurs à la fin du 19e, hein, où vraiment il y a eu de grandes violences faites aux Italiens, notamment ceux qui travaillaient sur le port, avec les mêmes slogans qu'on utilise aujourd'hui pour d'autres vagues migratoires. Donc, on porte tous en nous cette problématique-là. D'être finalement un jour mal considéré et en même temps avoir une grande attirance pour là d'où on vient, ou là d'où les générations précédentes sont venues, on nous raconte plein d'histoires et on se retrouve là-dedans tous finalement.
Et cette cuisine justement, elle permet d'échanger, de partager, de se découvrir.
Le pois chiche par exemple, vous en parliez tout à l'heure, ça permet de mettre un peu de son histoire et finalement... Là aussi, ça cimente tous les Marseillais. On a tous une histoire avec le pois chiche. L'ail aussi, beaucoup.
L'ail, bien sûr, l'ail. Toujours bien présent, l'ail, parmi tous les chefs que vous avez rencontrés.
Oui, bien sûr. Et on s'y fait. Le novice s'y fait. On mange de l'ail tous les jours, d'un moment. C'est marrant d'ailleurs, l'ail, parce qu'on râle en disant l'ail vient de Chine. Mais en fait, l'ail est aussi chinois. Il y a une histoire de l'ail en Chine et dans la cuisine chinoise. Et en rencontrant un chef chinois à Marseille, pour lui, c'était une évidence de mettre de l'ail dans sa recette parce que l'ail est venu de l'Est, finalement, et est parti un peu plus à l'Est, en Chine, et puis en Europe. Mais là aussi, il y a des liens, en fait, qu'on ne connaissait même pas ou que le Marseillais ne connaît pas. On est Marseille jumelée avec Shanghai depuis des années. Et on voit d'un coup plein d'étudiants chinois à Marseille et on se demande pourquoi, comment certains ouvrent des restaurants. Et on découvre finalement Marseille a vraiment des liens avec le monde entier
Historiquement.
Historiquement, oui.
Ça a été vraiment la porte d'arrivée du commerce du monde.
Notamment des bateaux chinois qui venaient en Europe.
Il y a peu de plats qui seraient typiquement marseillais, qu'on ne trouverait nulle part ailleurs qu'à Marseille. De l'aioli peut-être, donc, qui est donc cette sauce à l'ail, des légumes crus, de l'huile, d'olive.
L'aioli probablement, oui, c'est très 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 marseillais, mais... Non, pour moi, la part de pizza reste le plat principalement marseillais. L'aioli, oui, on en parle tous, mais là encore, une fois, on en mange quand de l'aioli ? On le fait une fois par an.
Oui, c'est vraiment, ça, c'est un peu la cuisine de musée, vous voulez dire, un peu la cuisine...
C'est festif, c'est sympathique, mais non,
c'est
non mais
long
quand
à
même,
préparer.
Enfin, je pense qu'on préfère s'asseoir sur des rochers et partager une pizza.
Voir un oursin. Quand c'est la saison. Ouais. Moi, j'ai envie de manger un peu de sucré, là. Je sais pas pourquoi. J'ai une petite dent fleur d'oranger, peut-être.
Oui.
Il n'y a pas la navette.
Mais là encore, qui mange des navettes à Marseille ?
Alors, quelle est la réalité ? Le chichi.
Le chichi, il a panisse, ça, c'est sûr.
Le chichi,
voilà,
il a panisse.
Les panisses. Ça, c'est vrai que l'estac, pour ça. Et puis, de toute façon, on les fait chez soi aussi, hein, les panisses, hein, beaucoup.
Donc, quand on est enfant, la douceur, quand on dira aux enfants marseillais dans 20 ans, alors, le goût de ton enfance, c'était quoi ?
Pour moi, ce sera de toute façon la ratatouille de ma mère. Je la fais, mais pour elle, c'est toujours pas la bonne. Moi, c'est la ratatouille et les farcis de ma mère, qui sont les farcis de ma grand-mère. Mais je peux pas vous dire que ce sera le souvenir de tous les Marseillais. Non, ce sont les miens.
Et vos enfants, dans 20 ans, ils vont
ma
dire
ma fille, c'est déjà la ratatouille.
C'est la ratatouille.
C'est pour ça que, je vous le dis, le souvenir restera, ce sera la ratatouille.
Ouais. Là, on assiste quand même à un renouvellement, c'est saillant hein, dans l'émission, on l'entend hein, ici et là, un renouvellement notamment initié par Alexandre Mazia, donc il y a eu ses 3 étoiles en début d'année 2021 avec son restaurant AM, qui est originaire, lui, de Pointe-Noire. Donc aussi un voyageur et l'Afrique à cœur, évidemment.
Alexandre Mazia est arrivé en France à l'âge de 15 ans, donc il a complètement l'esprit marseillais. Il adore les goudes, mais on a tourné aussi un film, une petite vidéo pour le guide Michelin ensemble. Et on s'est baladé dans Noailles le matin et c'était fantastique. En fait, lui se retrouve énormément dans toutes ces différentes langues aussi qu'on entend dans Noailles et puis les odeurs.
Bon, on va avoir besoin d'un ingrédient, un ustensile parce que c'est déjà la fin de l'émission.
J'ai essayé de penser large et je me suis dit, en fait, si vous voulez un ingrédient qu'il faut avoir à Marseille...
Qu'il faut avoir ou...
Avec soi, c'est-à-dire qu'il faut se procurer quelque part, mais qu'il faut surtout trouver en soi, c'est l'envie de parler avec les autres. Donc pour moi, c'est la tchatche. Et l'ustensile, à ce moment-là aussi, sera lié à comment aller vers l'autre. Donc c'est avoir la bonne dégaine, donc forcément avoir quelque chose qui vous représente, mais qui fait penser à l'ouverture. Donc bon, si c'est l'hiver, mettez une écharpe de l'OM, et si c'est l'été, mettez un t-shirt de l'OM.
Bon voilà, vous êtes parés. Mais la tchatch, même si vous n'avez pas le t-shirt, ça ira quand même, on est d'accord.
Exactement, mais venez comme vous êtes, et n'essayez pas de comprendre le Marseillais en 3 minutes. Prenez le temps.
Faites-vous inviter pour une soupe.
Tout à fait. Et reprenez-en, servez-vous plusieurs fois, ne faites pas... voilà, laissez-vous porter. Vous allez prendre quelques kilos à Marseille, oui.
Ouais, vous allez
pas
l'aimer.
Grave.
Et vous allez l'aimer, je vous le dis. Merci beaucoup, Véran Frediani. Marseille Cuisine le Monde est un petit bijou, je l'ai dit, aux éditions de La Martinière. On vous glissera 1 ou 2 recettes marseillaises sur la page de cette émission. J'imagine que la soupe, on vous la glanera avec son secret. Et les liens pour suivre Véran, les grandes tables, les marmites, les cuisiniers, les cuisinières dont nous vous avons parlé. Quel goût Marseille pour vous ? Racontez-nous sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Dites-nous aussi de quels plats et de quels horizons vous aimeriez entendre parler ici. Cécile Bonici a réalisé et mis en onde ce goût du monde. Merci beaucoup à elle. Merci à vous d'être fidèle au poste chaque samedi. Et puis, abonnez-vous pour écouter sur votre plateforme de podcast préférée. Vous serez sûr de ne pas perdre une miette du goût du monde tous les jours. Belle semaine à tous.